C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai l'occasion de me déplacer souvent ici en France et en Belgique aussi, et de rencontrer pas mal de chrétiens et d'être encouragé par la situation de l'Église ici en France. Mais aussi d'être un peu un lien entre l'Église à l'étranger et l'Église en France. J'aimerais vous parler un peu de ce thématique de transmettre la bénédiction. Mais avant cela, j'aimerais me présenter un tout petit peu, mais aussi présenter un peu ma famille. Donc j'ai 3 enfants, une femme. J'ai grandi en Afrique, donc pour moi, il est important de préciser que j'ai une femme et qu'une femme. On m'a proposé plusieurs pendant mes années au Tchad en tant que missionnaire, et j'ai dû refuser, à cause de mes convictions, mais aussi par mes préférences d'avoir qu'une femme et de vivre les problèmes, mais aussi les bénédictions d'avoir qu'une femme. J'ai passé quelques années donc à l'est du Tchad en tant que missionnaire envoyé et c'était un défi. J'étais dans une communauté où il y avait presque 100% musulmans. On passait du temps avec notre voisinage et c'était toujours pourquoi vous ne croyez pas dans ce que nous croyons? Et pour nous, c'était aussi un moyen de témoigner de qui est Christ. Et quand il y avait une femme qui a eu la conviction qu'elle devait devenir chrétienne, c'était une joie de voir sa joie de connaître Jésus, recevoir une telle bénédiction d'une paix, d'être en relation avec Dieu. J'ai aussi donc ouais, je donc pour présenter mes enfants, Joshua, mon aîné, Daniel et Anna sont tous à l'école dans le sud-est de la France, à côté d'Orange. Ma femme, elle travaille pour CIM aussi en tant que missiologue. Missiologue, c'est un grand mot pour dire elle travaille dans la recherche de la mission. Et elle rédige aussi quelques articles. Donc, de temps en temps, si vous lisez le magazine Cimerger, vous allez lire des articles qu'elle rédige. Mais aussi, on a besoin d'aborder des sujets assez sensibles de temps en temps. Et comment gérer les questions éthiques, morales, missiologiques. Elle aime bien creuser ces sujets et proposer des réponses, pas rarement une seule réponse à des problèmes, ouais. Donc ça c'est donc j'ai grandi au Niger et donc je me considère un peu plus africain qu'européen, mais je suis d'origine britannique, donc mon nom de famille Knight, qui veut dire chevalier. En fait, c'est allemand à la base, c'est Knecht, qui est serviteur. Mais c'est Knight qu'on traduit aujourd'hui en chevalier. Ok, donc transmettre la bénédiction. Transmettre la bénédiction. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez William Carey? Quelques-uns peut-être. William Carey fut un homme cordonnier dans le 18e siècle. Donc pendant ce qu'il avait appris à faire les chaussures, à fabriquer les chaussures, et en faisant ses chaussures, il y a pas mal de tâches qui sont très répétitives. Donc il avait pris l'habitude de lire en même temps qu'il faisait ses chaussures. C'est assez impressionnant, je trouve, travailler le cuir et taper les chaussures. J'ai eu l'occasion récemment d'aller chez un cordonnier ici en France. C'est un métier qui n'est pas très répandu aujourd'hui, mais de voir ce travail qui doit être minutieux, mais aussi William, il trouvait très répétitif. Et en fait, c'était une ère d'exploration. 18e siècle, il y avait beaucoup de gens qui partaient de l'Europe, qui allaient dans des pays inconnus et qui découvraient des peuples qui n'avaient aucun lien avec l'Évangile, des religions inconnues des Européens. Et il a commencé une recherche sur ces peuples. Il y a des millions de personnes qui connaissaient pas Dieu, qui n'avaient aucun témoignage de Christ parmi ces peuples. Et il a commencé de partager avec ces personnes de son église. Et il y a eu un homme qui a répondu, mais on n'a pas besoin d'aller là-bas. On a tous nos problèmes ici. Si Dieu veut que ces personnes découvrent Dieu, bon, celui, il va faire le travail. Nous, on n'a pas besoin de le faire. Et c'est vrai, en fait, ce problème que cet homme évoquait, ou ces problèmes que cet homme évoquait de la société britannique, donc il était, William Carey était britannique, en fait, était répandu ici en France aussi. C'était l'ère de la Révolution française. C'était l'ère d'une transition économique qui était très, très difficile et dure pour une grande partie de la population. Il y avait d'énormes problèmes. Il y avait une transition de la campagne vers les villes qui faisait en sorte qu'il y avait énormément de personnes, des dizaines, voire des centaines, et voire des millions de personnes qui étaient en souffrance tous les jours dans les grandes villes et qui vivaient à 30 dans une maison. Donc une situation aussi avec l'alcoolisme, avec des abus qu'on pouvait dire... Bon, c'est comment l'Église, elle a besoin vraiment d'être, de vivre l'Évangile, de transmettre l'Évangile et annoncer l'Évangile dans notre pays. Et c'était bien vrai. C'était bien vrai. Ici en France, mais en fait, et en Angleterre, et dans tous les pays d'Europe à l'époque. C'était pas une ère de gloire pour l'Église. C'était une ère où, un temps où c'était très très compliqué. Et on avait besoin de faire un travail ici, en Europe. Mais William était convaincu qu'il fallait faire les deux choses. Il fallait être envoyé ou être envoyé dans ces pays, dans ces endroits où il y avait très peu de chrétiens. Ou, à l'époque, pas du tout de chrétiens. Et donc, après quelques années d'études, il est devenu pasteur, il est parti en Inde. Et il a commencé à découvrir une situation qui était très compliquée là-bas. Et il a annoncé l'évangile, traduit la Bible là-bas en plusieurs langues. Et aujourd'hui, l'Église en Inde, en partie, existe grâce à ce travail que William il a fait. Et William a inspiré beaucoup d'autres. Je trouve qu'il y a des parallèles avec ce que nous vivons en France. Il y a aujourd'hui, il y a des crises économiques, il y a des crises politiques, il y a des transitions qu'on connaît, et il y a un grand besoin d'annoncer l'Évangile ici en France. Mais si on, et peut-être que vous allez réagir et me donner des explications de ce qu'il faudrait faire, mais j'aimerais qu'on puisse lire quelques passages bibliques pour étudier un peu qui est Dieu et ses habitudes à lui et ce qu'il nous dit par rapport à ces problématiques. Et j'ai une question à vous poser dans un premier temps. Quelle a été la première chose que Dieu a faite après la création? Pardon? Il s'est reposé. Avant même qu'il se repose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose avant de se reposer. Donc, après la création, il a fait quelque chose. Il s'est réjoui, oui, mais après ça, donc ça c'était pour, en fait, je mets avec la création. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est en Genèse 1. La réponse. Oui, il a regardé tout ce qu'il a fait. Bon, je vais mettre avec la création. Il a donné un mandat à l'homme avant ça même. Ok? Bon, la réponse, c'est en Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Il bénit, donc en fait, c'est directement sixième jour, c'est pendant le sixième jour, si on veut, il a créé l'homme et la femme. Et tout de suite après cette création de l'homme et la femme, Dieu bénit ces deux personnes. Et puis il leur dit, il leur donne des responsabilités. Donc il y a une bénédiction suivie par des responsabilités. C'est intéressant. Si nous continuons en Genèse 12, on a Dieu qui annonce à Abraham qu'il sera une bénédiction, une source de bénédiction. Donc Dieu avait choisi cet homme, Dieu a choisi Abraham, et en fait, bon, chez les évangéliques, on peut avoir cette petite difficulté. Pourquoi Dieu choisit certaines personnes et pas d'autres? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham et pas le reste de la population du monde? Et je propose que la réponse est là. La réponse, elle est là. Que Dieu a choisi Abraham pour être une bénédiction pour toutes les nations. Donc, en Genèse 12, verset 2 et 3, tu seras une source de bénédiction, et un peu plus tard, vers la fin de verset 3, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand on entend parler de ce mot famille, bien sûr, eux, ils avaient à l'époque une vision plus large du mot famille. C'était souvent des villages entiers qui étaient d'une seule famille. Mais cela nous indique quelque chose. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pas que notre famille, notre région qui va bénéficier. C'est pas que la famille d'Abraham qui a bénéficié, qui a reçu une grande bénédiction. Mais que Abraham, il allait être une bénédiction pour toute la terre, toutes les familles, toutes les villes peut-être, même tous les villages du monde entier. Donc on peut avoir des confusions parce que dans les versets suivants, donc Genèse 22, verset 18, on lit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, Abraham, parce que tu m'as obéi. » Quand on entend « nation » aujourd'hui, on entend souvent « pays ». Mais ceci n'est pas tout à fait ce qui était dans la compréhension des personnes de l'époque. Ils n'avaient pas de « pays ». Comme nous avons aujourd'hui. Et on a pu traduire en peuple dans d'autres traductions, et plus tard dans la Bible, on a traduit peuple. Et on a défini peuple par peuple linguistique, par exemple. Et ceci n'est pas tout à fait reflété dans le texte biblique. La définition que les missiologues de ces 60 dernières années de peuple linguistique, ça a servi à faire des traductions de la Bible, mais ça ne sert pas pour l'annonce de l'Évangile auprès de toutes les familles de la terre, toutes les nations, tous les peuples bibliques de la terre. On a besoin de veiller à ne pas trop limiter notre définition de ce que c'est être une bénédiction à toutes les familles de la terre. Et si, en fait, on part dans le Nouveau Testament, on a des échos de ces versets. La bénédiction d'Abraham, Paul, il reprend en Galates, et il dit, en fait, que cette bénédiction à Abraham, en fait, c'est quelque chose que nous devons être aussi. Si nous lisons « Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. » Donc Abraham, il est devenu juste devant Dieu grâce à la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » Parce que un peu le souci que les Juifs ils avaient, c'était qu'ils avaient oublié que cette bénédiction devait être pour toutes les nations. Ils recevaient la bénédiction de Dieu, la connaissance. Donc, quelle est cette bénédiction? C'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, en grande partie. Être en relation avec Dieu. Et eux, ils avaient perdu un peu de vue cette idée de transmettre cette bénédiction, cette connaissance de qui est Dieu à toutes les nations. Ils devaient vivre en tant que peuple choisi pour bénir. L'évangile dans l'Ancien Testament, c'était que le peuple choisi puisse être une source de bénédiction pour toute la terre. Et malheureusement, ce peuple d'Israël a perdu cela de vue. Ceci est triste. Mais c'est une tendance que nous pouvons avoir aussi. Que dans tous les problèmes et toute la situation, toutes les difficultés que nous avons, qu'on perd de vue que nous sommes appelés à transmettre cette connaissance, cette bénédiction de Dieu à d'autres. Nous avons besoin de se rappeler que la bénédiction n'est même pas limitée à notre famille ou notre pays ou notre région. Bien sûr, la France, elle a besoin qu'on envoie des pasteurs, implanteurs, des personnes qui ont un cœur pour porter l'évangile dans des villages, des villes et des régions où il y a moins de chrétiens, où il y a très peu de chrétiens. Ça existe toujours. Il y a une ville à côté de là où j'habite, où il y a plus de 20 000 personnes, où il n'y a pas d'église. Et s'il y a un chrétien qui veut aller dans une église, elle doit faire plus de 30 minutes de route. Et il y a peu d'options. Bon, heureusement, notre église est une des plus proches. Une église CAEF là-bas, à Orange. Et donc nous avons la joie d'accueillir un couple de cette ville. Donc il y a des chrétiens dans cette ville, mais pas d'église. Donc il y a un besoin de faire un travail ici. Mais nous avons besoin de aussi garder en tête, comme vous faites ici dans cette église, garder ce lien avec l'église au niveau international, d'envoyer, de soutenir, appuyer dans la prière ce qui se passe auprès d'autres peuples, auprès d'autres nations, auprès d'autres familles. Si nous continuons un peu cette étude de transmission de bénédiction, je propose d'atterrir avec les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et puis Actes 13. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, à Wittenheim, peut-être on peut proposer que, donc, si on revoit le texte et le contexte de ce passage, Jérusalem, c'était là où il se trouvait. Donc, Wittenheim ou bien le Haut-Rhin, c'est là où on se trouve. Et donc, on a besoin d'annoncer l'évangile ici, à Wittenheim. Mais on a aussi besoin de l'annoncer dans toute la Judée, peut-être toute l'Alsace. Dans la Samarie. Bon, la Samarie, c'est le pays voisin qu'on n'aime pas. Je ne sais pas pour vous quel est ce pays que vous n'aimez pas, mais peut-être, bon, c'est l'Allemagne, peut-être c'est le reste de la France, ou bien c'est la Belgique ou les Anglais, les Britanniques. Et ça, tous ces pays ici en Europe ont besoin d'annonce de l'évangile. Il y a un grand besoin. Dans toute cette situation de difficulté et de réalité spirituelle de nos pays européens, nous avons besoin d'être fidèles et transmettre la connaissance de Dieu dans toutes ces régions et tous ces pays. Mais nous avons besoin de garder en tête aussi cette dernière partie de ce verset. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on a entendu le témoignage de Gabriel de partir jusqu'au Népal, d'être impliqué dans un ministère là-bas. Vous connaissez Wendy, qui a fait quelques années à Madagascar et puis qui repart là-bas bientôt. La mission que nous avons, c'est de faire tout en même temps. Bon, mais Samuel, qu'est-ce que tu racontes? Faire tout en même temps, c'est impossible. Oui, c'est impossible pour une seule personne. Et dans notre culture individualiste française, où nous disons, bon, moi j'ai besoin de faire quelque chose, oui, j'ai besoin de faire quelque chose, mais nous avons besoin de faire quelque chose ensemble. Nous pouvons accomplir cette tâche ensemble. Certains parmi nous sont appelés à partager l'évangile ici à Wittenheim. Ça fait complètement partie de ce que le Seigneur nous demande. Peut-être même la majorité parmi vous sont appelés à être de témoins fidèles ici. Ici à votre Jérusalem. Wittenheim et les villes et villages autour. Mulhouse. Certains, par contre, vous devez partir dans le pays voisin, dans la région voisine. Vivre en tant que témoin de cette bénédiction que vous avez reçue. Annoncer l'évangile, et pas que la connaissance de Christ dans la parole, mais en action. Des manières que nous vivons. Et d'autres, comme Wendy, Gabriel, vous êtes appelés à partir jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. Parce qu'il y a, même malgré la situation ici en France, où on a un grand besoin d'annoncer l'évangile, il y a des endroits où il y a encore moins de chrétiens. La région où j'étais, à l'est du Tchad, il n'y avait même pas d'église d'autochtones, de personnes qui venaient de cette région, il n'y avait même pas une église. Il y avait 2-3 chrétiens. Il y avait une église de personnes qui venaient d'ailleurs, d'une autre culture. Donc je faisais partie de cette église parce que c'était une joie de partager et vivre en tant que chrétien ensemble. Mais ils avaient du mal à partager l'évangile. Et nous avons souvent du mal à partager qui est Christ aux personnes autour de nous. Donc pour moi, c'était une joie de pouvoir sortir de notre ville, aller dans les villages autour avec mes amis chrétiens, mes frères et sœurs chrétiens, pour découvrir des populations qui étaient entièrement musulmanes, des populations qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Passons à Actes 13, verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Des Actes chapitre 1 verset 8, c'était les dernières paroles de Jésus-Christ. Donc on pourrait dire que c'est son dernier testament. Et puis Luc le reprend en Actes 13. Inspiré de ce que le Seigneur avait fait avec le choix d'Abraham, pour utiliser le mot technique, l'élection d'Abraham. Mais Abraham n'était pas choisi juste pour recevoir. Et vous n'êtes pas choisi pour recevoir et rester. Être un récipient de bénédiction. Comme un récipient d'eau, on verse de l'eau, et si on laisse cette eau dans ce récipient, ça ne devient pas très bien, très bon. La semaine dernière, j'étais en balade avec ma femme et on a vu dans une roche de l'eau. Ça ne donnait pas du tout envie de le boire. On avait soif, mais on n'avait pas envie de boire cette eau. Parce que l'eau qui reste dans un récipient, après quelques semaines, c'est plus bon. Nous ne sommes pas appelés à être des récipients de bénédiction. Nous recevons de la bénédiction, bien sûr. Mais nous sommes plutôt une canalisation de bénédiction, de transmission de bénédiction. Je propose qu'on prie et que je vous donne le temps de réfléchir, d'écouter le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être engagé. En tant qu'Église, cette tâche est impossible d'accomplir toute seule. Mais nous pouvons, en tant qu'Église, envoyer. En tant qu'Église, transmettre l'Évangile à la population autour de nous, dans les communautés, les quartiers, peut-être les quartiers sensibles, autour de nous, où il y a des personnes qui sont en grande difficulté, qui ont besoin d'entendre et de recevoir la bénédiction de Dieu. Et en tant qu'Église, envoyer dans la prière des personnes comme Wendy et d'autres, d'envoyer, et plusieurs parmi vous, vous êtes impliqués dans un ministère chrétien. En tant qu'Église, nous avons besoin d'encourager ces personnes, de les envoyer, de prier pour eux, de les soutenir de manière pratique. Et puis, pour ceux qui sont appelés à partir, de partir, d'aller peut-être dans la région voisine, à côté, peut-être dans un pays voisin, peut-être jusqu'aux extrémités de la terre.